Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordi.
Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro.
Génial.
Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison.
Top Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile.
L'XPS 12, PC et tablette.
Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr?
Jusqu'à 100 euros de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère?
Ou pas.
Voir modalité sur Dell.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et c'est un des personnages les plus contrastés de notre histoire que Franck Ferrand nous invite à redécouvrir cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Gilbert Mortier de Lafayette aura eu un destin exceptionnel, c'est une évidence. Orphelin, milliardaire à 14 ans, marié à 17 avec la femme de sa vie, officier général à 19 ans, vous imaginez, il aura défendu les peuples opprimés, il aura promu le suffrage universel avant tout le monde, traversé 3 révolutions, connu 4 roi, un empereur, 2 républiques, surnommé le héros des deux mondes. Il était, vous le savez, l'ami de George Washington. On va voir jusqu'où d'ailleurs, c'était peut-être pas si évident que ça en a l'air. On a envie de dire après tout ça, n'en jetez plus.
Vous avez invité sur Europe 1 Nicole Bacharan et Patrick Villiers à nous rejoindre.
Oui, Patrick Villiers est avec Laurence Châtel de Brancion, l'auteur d'un beau livre intitulé « Lafayette, rêver la gloire » chez Monet Layot. Le portrait qu'ils y tracent de Lafayette est loin de la géographie, vous allez voir. Quant à notre amie Nicole Bacharan, inutile de la présenter, elle est un petit peu, pour les auditeurs d'Europe 1, notre « Voice of America ».
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Imaginez-vous à Metz, par un soir orageux du mois d'août 1775, autant dire qu'on est au tout début du règne du jeune roi Louis XVI. Le capitaine Gilbert Mortier, de Lafayette, n'a pas encore 18 ans. Il a été envoyé par son beau-père. Son beau-père est quelqu'un de très puissant à la cour, hein, c'est le duc d'Ayen, un des piliers de l'ancienne cour de Louis XV. Il a été envoyé par le duc d'Ayen dans cette garnison lorraine en vue de parfaire sa formation militaire. Et nous allons voir jusqu'où Lafayette a été un grand militaire. En vérité, le jeune capitaine passe plus de temps dans ses livres que sur le champ de manœuvre. C'est qu'il ne se passe pas grand-chose dans le calme évêché de Metz en cet été 1775. On s'ennuie ferme. Et pourtant, ce soir-là, nous sommes le 8 août exactement, une simple conversation va faire basculer la vie du jeune homme. Le gouverneur local... Le gouverneur, à l'époque, c'est l'équivalent plus ou moins de notre préfet, si vous voulez. C'est une équivalence lointaine, mais enfin, c'est un peu cet esprit-là. Le gouverneur a convié le marquis à se joindre à un grand souper donné en l'honneur d'un voyageur de marque, le duc de Gloucester, qui est un personnage très important, puisqu'il s'agit du propre frère du roi d'Angleterre. Les autorités françaises ont mis les petits plats dans les grands. Il faut impressionner le plus possible ce prince anglais et sa suite. Il faut dire que la dernière guerre avec l'Angleterre s'est soldée 15 ans plus tôt par une défaite cuisante. Vous savez, c'était cette guerre de 7 ans assez désastreuse pour la France. Défaite scellée par le traité de Paris, de sinistre mémoire. Les Français n'ont de cesse depuis d'essayer de faire oublier cette humiliation. Alors, puisqu'on a le frère du roi d'Angleterre à dîner, évidemment, on va essayer de faire ça bien. Or, pendant le banquet, ce duc de Gloucester, très librement du reste, évoque les difficultés éprouvées par la couronne britannique avec les colons révoltés d'Amérique du Nord. Il a peut-être un peu bu, hein, le frère du roi d'Angleterre, et du coup, devant les Français, il se met à expliquer que les insurgents, comme on les appelle, ou les bostoniens, parce que leur révolte est partie de Boston, sont en train de donner du fil à retordre à la couronne d'Angleterre. Et il y a quelqu'un qui écoute ça avec beaucoup d'attention, c'est Lafayette lui-même. Le jeune homme pose des questions, il a bientôt les larmes aux yeux, c'est plus fort que lui. Ce combat pour la liberté des colons d'Amérique, ce combat, l'enthousiasme, il est galvanisé. Du premier moment où j'ai entendu prononcer le nom de l'Amérique, avouera-t-il plus tard, je l'ai aimé. Dès l'instant où j'ai su qu'elle combattait pour sa liberté, j'ai brûlé du désir de verser mon sang pour elle. Si ça, c'est pas une révélation. Gilbert s'y voit déjà, il est jeune, il est plein d'énergie, il est doté d'une fortune colossale, vous l'avez compris. Qu'est-ce qui pourrait bien l'empêcher d'aller voir lui-même ce qui se passe là-bas de l'autre côté de l'Atlantique? Alors, Le jeune marquis rentre à Paris pour assister au premier accouchement de sa femme, au passage. Il en profite pour rencontrer en France les commissaires des fameux bostoniens, vous savez, notamment Silas Deane, et puis, dans un deuxième temps, Benjamin Franklin, bien entendu. Ils sont en France pour obtenir de Louis XVI un soutien. Les Américains comprennent tout de suite que Lafayette, qui s'est fait accompagner par un ami, le baron Calp, qui connaît déjà bien l'Amérique, que ce Lafayette est loin d'être un simple aventurier. Il a beau être jeune, il représente, disons-le, la fine fleur de l'aristocratie française et de surcroît, il est richissime. C'est dire si Deane, Franklin et les autres lui font bon accueil. C'est bien simple, il le nomme d'entrée de jeu officier général dans l'armée américaine. Et dès lors, et on peut dire le plus vite possible, contre l'avis de son beau-père évidemment, Gilbert décide de s'embarquer clandestinement pour l'Amérique. C'est-à-dire qu'il va armer à ses frais un navire, le Victoire, et qu'il va précipiter son départ au printemps 1777. Ce départ, disons-le, a tout du roman picaresque. Lafayette laisse quand même une jeune épouse, certes amoureuse et conquise à la cause américaine, mais de nouveau enceinte. Il n'a prévenu son beau-père de sa décision que par courrier, et je vous prie de croire que le duc d'Ayen est furieux. Il est intervenu en haut lieu pour empêcher à son gendre de quitter la France. Il a d'ailleurs l'intention de l'emmener dans un voyage en Italie, le temps de lui faire passer l'envie d'aller se battre en Amérique. Seulement Gilbert est malin, il va jouer de ruse, il rejoint son navire en Espagne pour enfin pouvoir quitter l'ancien monde et se lancer à la conquête du nouveau.
Sur Europe 1 de Lafayette, musique du film réalisé par Jean Dreville en 1951. À tout de suite sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Patrick Villiers, professeur émérite en histoire moderne à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Co-auteur, vous l'avez dit Franck, avec Laurence Châtel de Brancion, de Lafayette, rêver la gloire aux éditions Monel Ayo. Et puis également avec nous, Nicole Bacharan, historienne spécialiste des États-Unis, consultante d'Europe 1.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors ce Gilbert Mottier dit Lafayette, enfin marquis de Lafayette, est une personnalité très contrastée, je l'ai dit d'emblée, d'entrée de jeu. Il est, semble-t-il, adulé aux États-Unis. Il l'est beaucoup moins en France, où on a retenu son ambition dévorante et tous ses, j'allais dire, tous ses sales coups. Nous allons y venir tout à l'heure, mais... Pour les Américains, Nicole Bacharan, c'est une sorte de héros, pas national, mais c'est un héros.
C'est un héros, c'est un mythe, c'est une icône. Je sens que Franck, vous avez à cœur aujourd'hui d'aller chercher un peu ses failles.
Chercher des poux dans la tête,
voilà,
dans la
mais
perruque
moi,
du marquis.
C'est le héros de mon enfance. Et c'est vrai qu'au moment de sa mort en 1834, alors évidemment je passe les étapes de notre histoire d'aujourd'hui, le président américain Andrew Jackson déclare un deuil national, les honneurs militaires. Il y a un discours de John Quincy Adams de 3 heures au Congrès, des services religieux à travers tout le pays. Et aujourd'hui encore, il y a, je crois, plus de 600 lieux, alors des villes, des comtés, des lacs, des rivières, qui s'appellent Lafayette.
Tous les petits Américains, évidemment, connaissent ce personnage. D'ailleurs, les présidents des États-Unis, lorsqu'ils viennent en France, généralement font le déplacement jusqu'au cimetière de Picpus à Paris, où se trouve la tombe de Lafayette, avec un beau drapeau américain, d'ailleurs. Enfin, tout ça fait partie, on va dire, de la mythologie. Fondatrice.
Et de la terre que Lafayette avait rapportée lors de ses voyages des États-Unis pour reposer dans la terre américaine.
Et d'ailleurs, on pourrait se demander si le tempérament de Lafayette ne se prête pas à cette mythologie américaine, parce qu'il avait comme ça ce tempérament glorieux, comme on disait autrefois. C'est le sous-titre de la biographie très illustrée et magnifique que vous lui consacrez, donc Patrick Villiers, qui s'appelle « Rêver la gloire ». Ça aura été le moteur de ce Mottier.
Oui, d'ailleurs, dans votre introduction, lorsque vous avez décrit comment Lafayette prend connaissance de l'Amérique, c'est la version de Lafayette dans ses mémoires.
Bien sûr, c'est lui qui nous raconte ça.
Oui, je suis en train de vous dire que je n'arrive pas à prouver ce que Lafayette aurait même été au fameux repas de Gloucester. Donc ça, on n'en est même pas sûr, parce que, enfin, au niveau des dates...
Il a un peu réécrit son histoire.
Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. D'ailleurs, les mémoires de Lafayette, que trop de gens ont recopié à la lettre, ont été faites par son fils après sa mort. Et son fils, dans l'introduction, dit bien, quand il me manquait des passages, j'ai fait appel à un historien américain. C'est-à-dire qu'en fait, les mémoires de Lafayette ne valent rien. Tout doit être revérifié par l'historien.
Elles valent un petit peu.
Sauf, il donne son point de vue. Révèle la gloire.
Ces mémoires, ils ont été, depuis le début, on va dire, le point de référence de tous les biographes, qui souvent sont des hagiographes. Et je sens que dans cette affaire, Nicole Bacharan va avoir fort à faire. Alors, si vous voulez dire, on va revenir à l'origine, on va repartir du début. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est peut-être, ça fait partie des clés pour cerner le personnage, c'est qu'on a affaire à un très haut aristocrate. Ce n'est pas du tout n'importe qui, ce monsieur de Lafayette. Hein.
Complètement, mais il est haut aristocrate par hasard. C'est les morts successives dans sa famille qui font que, petit orphelin, il se retrouve propulsé à la tête d'une très grande fortune, avec quelqu'un dont il ne parle jamais dans ses mémoires, mais qui est son arrière-grand-père, le comte de la Rivière. Et le comte de la Rivière n'est pas n'importe qui. Lieutenant général, il habite le palais du Luxembourg, il a commandé pendant 20 ans les mousquetaires noirs, donc c'est-à-dire en bon français, il commandait la garde de Louis XV. Il est ami du duc d'Aillen et des Noailles, qui sont eux-mêmes ou gardes du corps, ou
très proches du roi. Hein, les Noailles et les ducs d'Aillen, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle à Versailles le cercle du roi, c'est-à-dire vraiment les plus proches amis du souverain.
On ne peut pas être plus proche. Et en fait, ce comte de la Rivière, qui a 78 ans, se retrouve avec ce garçon de 12 ans qui est orphelin. Il ne sait pas quoi en faire et il se dit il faut le marier. Et le duc d'Aillen, il a 5 filles.
Ben voilà.
Donc tous les pères de famille comprendront ce que je vais dire. Il faut les marier, il faut trouver des dots. Et donc, comme le duc d'Aillen n'a pas beaucoup d'argent, et autant faire un beau mariage.
400 000 livres, c'est colossal.
Non, le revenu de Lafayette, c'est plus d'un million de livres.
Oui, mais
avec 200 000 livres.
Du mariage.
Ah oui, alors
l'apport du mariage, plus exactement.
La dot théorique, c'est 200 000 livres. Et dans la réalité, comme Madame d'Aguesso est une pro, elle donne 10 000 livres.
Ah oui, c'est ça.
Ça, c'est réellement une pro. C'est pas par hasard si elle est la petite fille d'Aguesseau, le grand ministre des Finances. Voilà.
Alors, nous avons bien compris, je le redis pour que ce soit clair, que Lafayette était orphelin à 12 ans. Il a perdu, en l'espace de 3 semaines, il a perdu et son père et sa mère.
Son père est mort sur le champ de bataille en 1762. Oui. Et donc, 10 ans plus tard, il perd en même temps son grand-père, le marquis,
et
sa mère.
Voilà. Et donc, à partir de là, il va devenir ce très riche héritier. Qui épouse-t-il? C'est ce que nous voyons dans un instant.
En si bémol majeur de Mozart.
Europe 1.
Look improbable, révolte, besoin accru de reconnaissance. La crise d'adolescence est une période difficile à comprendre et à gérer. Comment passer ce cap compliqué? Rendez-vous avec Elena et ses experts à 14h. Ils attendent, comme tous les jours, vos questions et témoignages au standard qui vous est ouvert. C'est le 3921, 34 centimes d'euros la minute.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Quand on vous écoute, Patrick Villiers, on a l'impression que ce mariage était un mariage purement d'argent. C'est quand même pas seulement ça, il y a des sentiments dans cette union-là.
Oui, c'est justement très intéressant. C'est qu'on s'aperçoit au XVIIIe siècle que beaucoup de mariages, la plupart sont des mariages arrangés.
Oui, bien sûr,
mais certains deviennent d'authentiques mariages d'amour. Mm-hmm. Et Adrienne va tomber follement amoureuse de Gilbert. Et Adrienne, elle est fondamentale. C'est pas Gilbert dont on va parler, c'est Adrienne.
C'est
Adrienne,
ça.
Elle est perpétuellement derrière. Elle est folle amoureuse, mais elle va faire aussi la carrière de son mari.
Alors on peut dire que cette femme très amoureuse est une femme très cultivée également, Nicole Bacharan. C'est pas n'importe qui. Hein.
Non, c'est une femme très cultivée, Adrienne de Noailles. Donc elle a reçu une excellente éducation. Elle écrit, elle communique, elle invite, elle tient salon. C'est vrai qu'elle construit la carrière de son mari, qu'elle construira aussi sa réputation. C'est vrai aussi qu'ils s'écriront beaucoup. Il y a une correspondance très riche entre les deux. Et même si je veux bien croire que Lafayette arrange le récit de ses exploits pour que ça soit encore plus beau quand il lui écrit, il y a une vraie tendresse, une vraie affection de part et d'autre. Mais en même temps, je dois dire que cette Adrienne me touche parce qu'elle est héroïque. Certes, son mari l'aime, mais enfin, il n'est pas du tout fidèle.
Il est très infidèle, oui.
Comme c'était le cas dans ces mariages aristocratiques du XVIIIe siècle. Ça faisait partie quasiment des bonnes mœurs. J'ai pas l'impression que forcément les personnes concernées le vivaient plus facilement. D'ailleurs, l'époux d'une des maîtresses de Lafayette se suicidera de désespoir à voir sa femme le tromper ainsi. Donc Adrienne de Lafayette, qui véritablement se consacre à la gloire de son mari, à l'éducation de ses enfants, puis au sauvetage de son mari, on le verra plus tard quand il sera finalement prisonnier, c'est une femme très courageuse et je trouve très, très admirable au fond.
Il mène grand train,
Oui, alors... La fille d'Adrienne a écrit un texte complètement apologétique sur sa mère. Elle en fait une sainte, etc. Ce que je ne conteste pas. Mais les archives sont très dures. Et les archives de la comptabilité de Lafayette que j'ai retrouvées aux Archives nationales donnent quand même le train de vie de cette jeune fille de 16 ans qui dépense de 1775 à 1776 la bagatelle de plus de 30 000 livres par an en carrosse, en robe, en chevaux... De 15 jusqu'au départ de Lafayette, elle est tous les soirs au bal à la cour et elle mène très grand train.
Alors justement, ce départ, venons-y, parce que vous nous dites que vous n'êtes même pas sûr qu'il a assisté au fameux banquet de Metz. Le personnage central, et qu'il faut souligner, c'est le comte de Breuil dans cette affaire, c'est le fameux gouverneur.
Le chef des services secrets de Louis XV, qui est en disgrâce.
Dire, Louis XV, rappelons ça, quelques temps avant, bien sûr, 25 ans plus tôt, avait créé, dans des circonstances qu'on ne rappellera pas ici, il avait créé une diplomatie personnelle et secrète, qu'on appelle donc le secret du roi, c'est-à-dire que parallèlement à la diplomatie officielle de la France et au ministre des Affaires étrangères, eh bien le roi menait sa propre diplomatie, parfois en totale contradiction avec la politique nationale d'ailleurs. Il menait sa propre diplomatie et celui qui est la cheville ouvrière, qui a été la cheville ouvrière du secret du roi, c'est justement Breuil.
C'est le comte de Breuil. Et le comte de Breuil, il a un énorme problème, c'est qu'il a un frère aîné qui est brillant, moins brillant que lui, qui est le duc de Breuil et qui est aussi prince. Et donc, les titres sont barrés au comte de Breuil. Alors le comte de Breuil veut devenir maréchal de France. Il n'y a qu'une seule solution, c'est offrir son épée à une puissance étrangère. Ce qui est parfaitement possible. Pensez par exemple que Maurice de Saxe, comme son nom l'indique, et il n'était pas français, c'est quand même lui qui gagne la victoire de Fontenoy. Et bien donc, quelque part, le comte de Breuil veut être le Maurice de Saxe des insurgents. Parce qu'il dit, c'est pas possible qu'on se batte contre les Anglais avec un roturier comme Washington. Il leur faut une grande épée. Je suis un des meilleurs généraux d'Europe, ce qui est parfaitement vrai. Je propose mon épée. J'organise un navire, un état-major et de l'argent, et en fait, c'est le bateau, la victoire de Lafayette. C'est-à-dire que quand Lafayette dit « c'est moi, c'est moi, c'est moi », c'est en fait Breuil qui a tout
organisé.
Mais oui,
mais alors c'est terrible, parce que ce que j'ai raconté au début de cette émission, c'est-à-dire cette espèce d'élan qui va porter ce jeune homme idéaliste vers des États-Unis totalement neufs, eh bien tout ça, vous nous dites, c'est une légende. En fait, derrière, il y a les services secrets, une fois de plus, et il y a des grosses affaires politiques et financières, et il y a le comte de Breuil. Avouez que ça casse un peu le mythe.
Oui, mais ça ne change rien au fait que Lafayette a 17 ans. Vous imaginez, il a le mal de mer. Un mal de mer abominable, comme moi d'ailleurs. Bon, on a au moins un point commun.
Je sens que vous et moi, on repère le vrai héroïsme. Quand on était malade en bateau, on a vraiment l'impression qu'on va mourir. On n'a pas peur de grand-chose après ça.
Nos auditeurs auront appris que nos deux invités d'aujourd'hui ont
le mal de mer. Voilà.
Vous imaginez ce que ça veut dire au XVIIe siècle, traverser l'océan.
18 en l'occurrence, oui.
À 17 ans et demi.
Ça dure 3 semaines.
Avec la mort au rendez-vous. Parce que, attention, il y a quand même les 2/3 des officiers français qui ont servi les insurgents qui sont morts en opération. Calbe, par exemple, dont on parlait, ou les autres. Donc, il va quand même au-devant de la mort. Au passage, d'ailleurs, les Noailles ont bien rédigé le testament. C'est eux qui récupéreront toute la fortune. Donc, c'est pas grave, il sera veuve et riche. Et alors, il y va pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, il n'aime pas la cour et il a un rêve, il veut être militaire, un grand militaire. Et la seule solution pour être militaire, eh bien, c'est d'aller avec Breuil aux États-Unis. Et donc, il va préparer le départ pour les États-Unis. Le navire est chargé d'armes qui seront vendues.
Il faut bien préciser ça, c'est qu'il a une cargaison, on ne part pas sur un navire vide, hein. Il
pas
est
du
bourré
tout.
À craquer d'armement.
Oui, oui, oui. Il y a plus de 80 000 livres d'armes qui ont été vendues trois fois le prix, ce qui fait que quand
Bonne opération au passage.
Oui, quand Lafayette débarque, il devient riche parce qu'en fait il est contrôlé hein, par, au point de vue argent par papa et maman. Donc il vend les armes. De cette cargaison d'armes, il en donne le tiers au gouvernement des États-Unis en arrivant. Et après, il part vers le Congrès des États-Unis et l'aventure commence.
Alors, cette aventure commence. Cette aventure, elle se confond pendant plusieurs années avec la fameuse guerre d'indépendance américaine. C'est à elle que nous venons dans un instant.
Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck sur Europe 1 consacré maintenant à la guerre d'indépendance américaine.
Et oui, rappelez-vous quand même, je vais essayer là, évidemment, ce que je vais raconter est très connu, mais il faut peut-être remettre un peu les choses en place. On va bientôt, on est bientôt le 4 juillet, vous savez que c'est la fête nationale américaine, c'est parce que le 4 juillet 1776, les 13 colonies britanniques, donc de cet est de la, des actuels États-Unis, proclament leur indépendance, ce qui les fait pratiquement accéder à la souveraineté. Alors à ce moment-là, Louis XVI envoie une escadre commandée par Duchafaud aux Antilles avec l'ordre d'aider les Américains, mais de les aider discrètement, parce que pour l'instant, la France n'est pas en guerre là, avec, avec la Grande-Bretagne. Secrètement, Benjamin Franklin a été reçu par le ministre. Alors ça, c'est très important, hein, c'est le rôle de Vergennes dans cette affaire. On va y revenir tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier que avec le nouveau règne, hein, puisque le roi Louis XV est mort il y a peu de temps, le nouveau ministre des Affaires étrangères, le comte de Vergennes, va jouer un rôle tout à fait essentiel. Et Vergennes reçoit donc secrètement Benjamin Franklin. On est là le 28 décembre. Il s'arrange pour le faire recevoir officiellement par le roi le 5 janvier suivant, le 5 janvier 77. Et conclusion de cette mission de Franklin, près de 2 millions de livres sont prêtés à l'Amérique. C'est un premier prêt, vous allez voir qu'il y en aura d'autres. On dit d'ailleurs que l'une des causes de l'énorme crise des finances publiques qui ont amené la Révolution française, c'est cette guerre d'indépendance américaine, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, en l'occurrence, 2 millions de livres déjà d'ores et déjà prêtés à l'Amérique, avec un secours immédiat de 30 000 fusils de guerre et l'aide de 8 vaisseaux de ligne pour protéger les côtes américaines. Ça veut dire que la France, dans cette affaire, d'emblée, a quand même choisi son camp. Ce n'est pas très difficile, vous me direz, les Anglais étant les ennemis héréditaires et ayant, encore une fois, en 1760, imposé ce traité de Paris qui a été un désastre pour la France. En 1777, c'est la chute de Philadelphie, c'est la fuite du Congrès à Baltimore et c'est l'arrivée de Lafayette. C'est donc une année essentielle, cette année-là. Alors, notre Gilbert, on vous l'a dit, c'était à armer donc, ce navire. Alors, on a vu dans quelles conditions, hein, quelle est sa part dans le départ de ce navire, la Victoire, qui quitte la France au printemps 1777. Il arrive, ce navire, à Georgetown, donc en Caroline du Sud, le 13 juin 1777. Et Lafayette dira, dans les fameux mémoires, à prendre avec des pincettes, qu'en mettant le pied sur le sol américain, il fit prêter à ses compagnons le serment de vaincre ou de périr avec la jeune République. Vous voyez que là, on est dans, évidemment, on est dans la belle et magnifique légende. Alors il repart, en attendant, lui, Lafayette, il repart sur un vaisseau français pour Charleston, il rejoint Philadelphie, il se rend compte que les proportions géographiques du pays sont totalement inédites pour quelqu'un habitué à la France et à l'Europe, bien entendu. Vous imaginez ce que c'est que ce territoire gigantesque, cette nature inviolée, ces fleuves énormes, ces précipitations invraisemblables. Bon, on sait ce qu'en dira Chateaubriand quelques années plus tard, mais c'est la découverte, évidemment, pour Lafayette d'un continent qui l'exalte littéralement. Et il est surtout intéressé, disons-le, par les structures sociales et par la politique américaine. Il est fasciné par tous ces citoyens qui sont tous frères. Encore une fois, on est en France au début du règne de Louis XVI. Sans doute la France est-elle un pays très agréable, avec une douceur de vivre incomparable à l'époque, mais c'est aussi un pays extraordinairement cloisonné, hiérarchisé, avec des strates, pour ne pas dire des castes sociales extrêmement fermé. Et quand on arrive aux États-Unis, on est sidéré de voir tous ces gens qui se considèrent plus ou moins comme des frères. Il ne faut pas oublier la dimension maçonnique de Gilbert Mottier. D'ailleurs, on y viendra tout à l'heure. Il faut absolument qu'on pense à en parler. L'homme le plus riche et le plus pauvre sont de niveau, écrira-t-il. On croirait presque déjà lire du Tocqueville. la clairvoyance en moins. Tous les citoyens ont un bien honnête et tous ont les mêmes droits que les propriétaires les plus puissants du pays. Alors ça paraît complètement fou en France, évidemment. Selon votre ancienneté familiale, selon votre fortune et vos biens, vous n'avez pas du tout les mêmes droits que le petit copain. Et bien là-bas, tout le monde est pareil. C'est fascinant. Alors Lafayette va se présenter au Congrès. Le Congrès est un peu sceptique, hein. Il faut vous dire qu'il a reçu un certain nombre de recrues jusqu'alors, avant Lafayette, et que tout ça n'a pas donné tellement de fruits. Donc il accepte Lafayette, il l'admet comme major servant à ses frais dans l'armée américaine. La vérité, c'est que Lafayette va financer une partie des opérations, on va y venir. Quelques jours plus tard, il est donc présenté à Washington. Alors on a, notamment aux États-Unis, et c'est ce que disait Nicole Bacharan pour commencer cette émission, un très grand nombre de tableaux, de gravures colorées qui représentent cette célèbre entrevue initiale, inaugurale entre Washington et Lafayette. En vérité, d'après un document qui émane de Lafayette lui-même, mais qui ne sera connu donc que plus tard, en 1825, sa première impression concernant Washington n'a pas été excellente. Il a été marqué, dit-il, écrira-t-il, par la raideur du général en chef qui l'accueillit avec une correction bien hautaine. Donc Lafayette n'est pas séduit d'emblée par Washington, contrairement à ce qu'on aurait voulu nous dire. Il va participer immédiatement aux opérations de guerre, quand je dis immédiatement, en tout cas dès l'été, des opérations qui vont être, disons-le, désastreuses. C'est la fameuse bataille de Brandywine dans un premier temps, une bataille défensive où Lafayette est blessé, il va recevoir une balle à la jambe, il revient à Philadelphie ensuite est perdue, une partie de la population se réfugie dans les collines environnantes tandis qu'on emmène Lafayette à Bristol. C'est le début de ce qu'on peut appeler une véritable guerre civile, bien entendu, avec d'un côté ceux qui restent partisans des Anglais, qu'on appellera les Tories, et puis de l'autre côté les Whigs, c'est-à-dire les insurgents. Les Anglais sont très durs, hein, comme ils l'ont toujours été hein, dans ce cas-là. Les représailles sont violentes, on fait brûler les maisons, on tue, on pille, et ce sont d'ailleurs en grande partie des mercenaires allemands qui se chargent de cette besogne-là, ce qui va bien entendu rendre l'action des Britanniques d'autant moins populaire de ce côté-ci de l'Atlantique, parce qu'évidemment, on continue à Versailles de regarder ce qui se passe, et l'on commence à se demander s'il ne serait pas temps d'aller prêter main forte, cette fois le plus officiellement du monde, aux insurgents qui sont en train de lutter pour leur liberté.
Sur Europe 1 du Gloria en ut mineur de Mozart.
Le 4 octobre 1777, Washington attaque les Anglais retranchés autour de Philadelphie. Ce sont des batailles extrêmement dures. Alors, les Américains adorent reconstituer tout ça, mais ça fait beaucoup de pertes, évidemment, des deux côtés, du reste. Les Américains, si je puis dire, enfin, les insurgents sont encore affaiblis. Et Lafayette, à ce moment-là, va rejoindre le quartier général, alors que sa blessure n'est pas tout à fait guérie. La situation des insurgents paraît désespérée. Et là, miracle, une importante armée anglaise va devoir capituler devant les révoltés, en quelque sorte, à Saratoga. Le 17 octobre 1777, tous les petits Américains savent ça. Cette première victoire, en quelque sorte, va renverser l'opinion. Et cette fois, à Versailles, on ne se pose même plus de questions. Vergennes en profite pour faire accepter par le roi Louis XVI l'intervention militaire de la France aux États-Unis. La France va donc s'engager officiellement dans la guerre. Le 6 février 1778, à l'hôtel de Coislin, place de la Concorde, hein, à côté de
vous voyez, l'Automobile Club de France.
Hein, oui, c'est ça, c'est l'actuel Automobile Club de France. Dans cet hôtel de Coislin est signé le traité d'alliance, un traité qui est signé par Conrad Alexandre Gérard pour la France et par Franklin, Dean et Lee pour les États-Unis. Un traité qui prévoit un soutien militaire ainsi qu'une paix éternelle entre les deux pays. Et la voilà l'origine de cette amitié franco-américaine. C'est, on peut le dire, aussi le couronnement d'un double travail de longue haleine, celui de Benjamin Franklin bien sûr, mais aussi et peut-être surtout celui de Vergennes. Sur quoi tout cela va-t-il déboucher? Parce qu'on n'est pas encore au traité final de 1783, on en est loin, il reste encore 4 ans et demi à parcourir. Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos invités dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie des historiens Patrick Villiers, Nicole Bacharan. Nous parlons aujourd'hui de Lafayette et des États-Unis.
Lafayette qui donc se bat, on est en 78 aux États-Unis, 1778 dans ce qui n'est pas encore d'ailleurs les États-Unis. Est-ce que c'est un bon militaire? Est-ce que c'est un bon soldat, Nicole Bacharan?
C'est la réputation qu'il a vraiment gagnée sur les champs de bataille et c'est aussi sa conduite sur les champs de bataille qui fondera au fond sa véritable amitié avec Washington. Donc vous disiez que ça n'était pas gagné dès leur première entrevue. D'abord, il est blessé, il se montre courageux, il persiste jusqu'au bout de la bataille, il y retourne dès qu'il est à moitié sur pied. Il a aussi la réputation d'être un bon meneur d'hommes, hein, de savoir à la fois galvaniser, mais aussi respecter ses soldats et se faire respecter d'eux. Réputation aussi d'être un bon tacticien. Et cet homme que l'on verra tout au cours de sa vie, impatient, avide d'action, avide de résultats rapides finalement, s'est montré aussi capable de patience, de persévérance. Il fait très très froid, il a souvent une sorte de dysenterie comme beaucoup de gens qui l'accompagnent. Les vivres arrivent par moments, il est loin de sa famille, c'est quand même des circonstances dures. Donc c'est un bon soldat, un bon capitaine. Et je pense que la victoire finale des insurgents, elle est due à deux choses. D'abord, à Washington, le général Washington, qui ne renonce jamais. Parce que vous avez parlé très justement de la victoire de Saratoga. Enfin, c'est quand même une longue série de défaites.
Bien sûr, avant.
Une
oui.
longue série de défaites.
Et finalement, après,
et avant et après. Et ce qui fait la force des indépendantistes d'alors, c'est qu'ils ne renoncent pas. Ils prennent une raclée épouvantable, des pertes énormes.
Ils tiennent
bon.
Et puis,
ils préparent la prochaine étape. Et puis, l'arrivée de la marine française, l'arrivée de la flotte, qui, c'est vrai, jouera aussi un rôle décisif.
Donc, Patrick Villiers, un très bon soldat. Et en même temps, disons-le, parce que c'est le rôle essentiel qu'il va jouer sur place, un très bon diplomate. Parce que les Français qui, sur place, dirigent les opérations, et d'abord l'amiral d'Estaing qui arrive avec sa première escadre, ne sont pas très bien vus par les insurgents américains.
Non, parce
américains.
Que les Français sont des papistes.
Mais oui, voilà.
Les
catholiques, disons. Hein,
pour oui, on s'est battu très très durement entre Canadiens français qui faisaient des raids meurtriers sur la Nouvelle-Angleterre, qui ont laissé des souvenirs. Donc, quand les Français arrivent, la flotte de guerre française arrive, elle n'est pas très bien accueillie.
Et Lafayette va jouer un rôle énorme. Dans les rouages, en fait.
Il va jouer un rôle énorme. Alors, il ne faut pas oublier que pour les États-Unis, vous le savez, la chose essentielle, c'est de verser son sang. Lafayette, en versant son sang à Brandywine, a acquis l'amitié inaltérable des États-Unis.
Et puis il parlait bien l'anglais.
Alors, et d'autre part, c'est un des rares, pendant son voyage, en dépit de son mal de mer, il a appris l'anglais et très vite il va devenir traducteur entre les Français et les Anglais. Et au début, il est impatient. Il faut bien voir qu'il voudrait l'offensive. Quand la flotte française arrive, il voudrait l'offensive. Et Washington et Destin le calment, parce que Washington a très bien compris que Washington ne peut pas se permettre une défaite décisive. Washington peut se mettre des petites défaites, mais il ne peut pas se permettre une défaite décisive parce qu'il n'a plus de troupes derrière.
Mais oui.
Donc, la tactique géniale de Washington, c'est de chercher des petits engagements qui, s'il y a une défaite, pourront malgré tout ne pas avoir de conséquences. Alors que Lafayette voudrait avancer. Et on aura le même problème quand Rochambeau arrive. La première chose que fait Lafayette, c'est de dire il faut y aller. Et Rochambeau l'envoie sur les roses en disant...
Vous dites Rochambeau, voilà, mais il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, ce Rochambeau. Ce qu'il faut expliquer, c'est que Lafayette se démène en Amérique, mais il se démène aussi en France, parce qu'entre-temps, il rentre, il va à Versailles, il convainc tout le monde, il tire toutes les sonnettes, et il va obtenir que Louis XVI alors, s'engage de nouveau. La France va vraiment jouer un rôle essentiel.
Là, c'est la version Lafayette. Hein.
Oui.
En fait, pour vaincre l'Angleterre, qui a 120 vaisseaux et la France en a 50, il faut obligatoirement l'alliance de l'Espagne. L'Espagne ne veut pas reconnaître les insurgents.
Fondamental.
L'Espagne veut une guerre rapide.
L'Espagne Bourbon à l'époque.
L'Espagne veut un débarquement en Angleterre. Et Lafayette participe à ce débarquement en Angleterre. Ce débarquement, en fait, est annihilé par une épidémie qui dévaste la flotte française. Donc il faut passer d'une guerre courte à une guerre longue. Et là, on décide de repartir. Et là, Lafayette devient le conseiller du roi. Qu'est-ce qu'il faut faire aux États-Unis,
mais
etc.
Mais le roi ne lui confie pas de nouveau les opérations.
Il ne veut pas un petit blanc-bec de 21 ans, alors qu'il a quand même des généraux à pas savoir qu'en faire. Et notamment, faut le dire, Rochambeau, c'est la crème des crèmes. C'est quand même un très, très grand général. Hein. Lafayette n'est jamais qu'un petit capitaine américain. Faut bien le voir. Hein.
Alors,
c'est
tout
pas
ça,
minimisé, mais faut le remettre là. À la cour, on lui fait bien savoir. Quoi.
En tout cas, Lafayette avait choisi le bon camp, si je puis dire, puisque ce sera une victoire pour les insurgents, ce sera l'indépendance des États-Unis. Et alors, cette indépendance américaine, elle est signée à Versailles, s'il vous plaît, en 1783. Est-ce que Lafayette a hésité à ce moment-là entre rester là-bas et rentrer en France ?
Alors, il faut savoir que Lafayette a joué un rôle décisif à la victoire de Yorktown. À la victoire de Yorktown, il commande un jour sur trois en chef, d'ailleurs, de toutes les troupes, et il montera à l'assaut de la fameuse Redoute 10. Hein. Il est un des vainqueurs de Yorktown. On ne peut pas lui reprocher ça. Mmh. Ensuite, quand il revient... Il y a un épisode tout à fait amusant, c'est que quand on va négocier la signature de la paix, il écrit au Congrès américain pour que le Congrès américain le nomme plénipotentiaire pour négocier à Londres la paix. Alors les Américains l'envoient un petit peu sur les roses quand même en disant ça va bien, mais Lafayette se considère comme le représentant des États-Unis en France. Et quand il a 25 ans, parce qu'avant 25 ans il est mineur, il peut pas gérer sa fortune. Mm-hmm. Le jour de ses 25 ans, que fait-il ?
La majorité était tard à l'époque.
Il achète un hôtel particulier et il l'appelle l'ambassade des États-Unis. Et immédiatement, tous les Américains sont reçus et de 1785 à la Révolution, ils négocient les traités pour le tabac, les traités commerciaux, etc. Tous les Américains passent par lui parce qu'il est le plus farouche représentant des Américains à Paris.
On peut dire que les textes fondateurs, des pères fondateurs américains, l'ont marqué, Nicole Bacharan.
Ils l'ont profondément marqué au point qu'ils les amènent en France. Lafayette, au fond, et je pense qu'on en reparlera, il revient républicain profondément des États-Unis, mais il sait quand même que la France n'est pas l'Amérique. Il rêve plutôt à une monarchie constitutionnelle. Mais ces années de la fin de la décennie 1780, sont des années d'effervescence intellectuelle, sociale, et il a tous ses amis américains à Paris, notamment Thomas Jefferson, qui est alors l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Et c'est presque ensemble qu'ils rédigent la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sera la Déclaration française, qui est très fortement inspirée de la Déclaration d'indépendance américaine, de la Déclaration des droits que Thomas Jefferson a rédigée pour l'État de Virginie. Jefferson qui assiste discrètement, mais qui est bien présent aux États généraux à Versailles, et qui voit presque tous les soirs ce fameux Lafayette.
On comprend que Lafayette est désormais mûr pour vivre pleinement la Révolution française et pour en devenir un des acteurs majeurs.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Sur Europe avec Sim from Lafayette, Franck.
Oui, alors nous allons quitter un peu l'Amérique pour nous intéresser aux affaires françaises. Et je vous avoue que pendant très longtemps, je me suis demandé pourquoi Lafayette, qui avait, après le 14 juillet, hein, après la prise de la Bastille, était devenu le commandant de la garde nationale de Paris, c'est-à-dire en quelque sorte de la milice bourgeoise constituée à Paris, qui va jouer cette garde nationale un rôle si important dans les différents épisodes de la Révolution française. Je me demandais pourquoi Lafayette, dirigeant cette garde nationale, était allé à Paris où les émeutiers, vous savez on dit les femmes de Paris mais en fait il y avait autant d'hommes que de femmes, où les émeutiers étaient allés à Versailles demander à l'Assemblée nationale du pain, etc. Et puis finalement l'Assemblée nationale les avait reportés sur le château, ils s'étaient retrouvés devant le château de Versailles et c'est ce qui a amené l'invasion du château de Versailles et la prise de corps, si je puis dire, du roi, de la reine, de la famille royale qu'on a ramené à Paris aux Tuileries et c'est le basculement de la Révolution française. Or, si Lafayette avec ses gardes nationaux n'étais pas allé à Versailles ce 5 octobre 1789, rien de tout ça n'aurait eu lieu. Et je me suis dit, mais pourquoi qu'est allé faire Lafayette dans cette galère? Et très souvent, je me suis posé la question. Et puis, c'est en lisant ce livre,
merci.
Donc Lafayette, rêver la gloire aux éditions Monet-Layot, c'est en lisant votre livre, Patrick Villiers, que j'ai pris conscience que Lafayette était à Versailles tout bonnement pour pousser le roi à signer la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'il ne voulait pas signer. Tout ça est lié en vérité. Il y avait chez cet homme non seulement la volonté d'être au cœur de l'événement, mais aussi celle incontestablement de peser sur les destinées du régime.
Il est à ses côtés, il a bailli le maire de Paris. Alors on a une lettre de Lafayette qui est terrible, je vous en lis un extrait quand même. Le peuple ne peut être modéré que par moi. Oh, voilà, voilà ce qu'il entend. Et attendez, on continue dans la même phrase qu'il écrit à son épouse. Il dit « 40 000 âmes s'assemblent, la fermentation est à son comble. Je parais et un mot de moi les disperse. » Et alors, et vous savez que on va avoir quelques jours plus tard l'abolition des privilèges, la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. Savez-vous ce que Lafayette fait? Seul le roi a le droit d'avoir un cheval blanc. Le lendemain, Lafayette s'achète le cheval blanc le plus cher de Paris, 1500 louis, qu'il appelle le Grand Blanc, et il va parader dans Paris avec ce cheval blanc.
Donc le lendemain même de l'abolition des privilèges.
Voilà, la première chose qu'il fait, c'est dépenser son argent, acheter un cheval blanc. Ça montre aussi le personnage communiqué,
et d'ailleurs,
montré.
D'ailleurs, enfin, on l'appelait à l'époque, le nom qu'on lui donne à la cour, c'est le dictateur. Et quand il arrive à Versailles, on dit « voilà Cromwell ». Donc on est vraiment dans cette idée. On se demande s'il va devenir, pourquoi pas, président d'une république.
C'est tout ça. Il se veut un Washington français.
C'est ça, voilà.
Il a peur de rien.
Alors, ce qui est assez frappant, c'est le rôle très étrange que va donc jouer Lafayette pendant toute la Révolution. On a pas le temps d'entrer dans tous les détails. Enfin, il accompagne évidemment tous les événements de la Révolution. Il est l'homme qui a la force avec lui. Il a la garde nationale.
Alors, ce qui est intéressant, c'est la correspondance que Lafayette a échangée avec Washington. Cette correspondance est extraordinaire. Il écrit « Je vais monter le peuple, je vais affaiblir le roi et alors le roi viendra me chercher. » C'est-à-dire qu'il se prend pour le grand manipulateur. Et gouverneur Maurice, qui est un personnage extraordinaire, gouverneur Maurice, c'est le successeur de Jefferson, ambassadeur à Paris. Savez-vous ce qu'il écrit à propos de Lafayette? Il est un de ces utopistes dangereux qui mènent un pays à sa perte. Bon, c'est bien, c'est réglé. Quand même. Bon. Alors, et la faillite va être dépassée par la Révolution, c'est ça le vrai problème.
Mais il ne faut pas oublier qu'il est franc-maçon, encore une fois. Ça joue sans doute un rôle essentiel. Ça a joué un rôle très important dans ses relations avec les insurgents américains, mais ça joue maintenant un rôle essentiel dans la Révolution et dans les lendemains de la Révolution, bien sûr.
Tout à fait.
Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il va passer 7 années en prison.
Alors, Lafayette, en fait, va être dépassé par la Révolution, notamment pour une raison très simple. En tant que chef de la garde nationale, il se retrouve à devoir mater une émeute et à devoir tirer sur la foule. Et ça, il ne le supporte pas. Et donc, quelques jours plus tard, il démissionne, il demande à être nommé militaire, c'est-à-dire à la tête de l'armée du Nord, et puis de l'armée du Centre. Enfin, disons, il est nommé à Sedan. Bon. Et là, pendant qu'il est à Sedan, il réorganise l'armée, il commence à mener des combats, mais il apprend que Robespierre demande sa tête. Et donc là, c'est là un problème dans la vie de Lafayette, parce qu'il y a plusieurs interprétations. Il part avec son état-major, donc il abandonne son armée, et il part vers la Hollande. Il est capturé par les Prussiens et il va être donc capturé pendant 7 ans. Mais c'est quand même un chef d'état-major qui déserte avec son état-major. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu un débat quand on a voulu le ramener au Panthéon. Il y a des gens qui ont dit qu'on ne peut pas nommer au Panthéon quelqu'un qui a déserté à la tête d'une armée française, un commandant en chef.
On ne parle jamais, nous dit David, de Rochefort en Belgique, là où il a été arrêté par les Autrichiens. Je me permets de le signaler car j'y habite. Et bien voilà, David, nous avons cité Rochefort en Belgique. Alors, il faudrait, mais nous n'avons plus le temps du tout de le faire, il faudrait, comme vous le faites dans votre biographie, Patrick Villiers, avec Laurence Châtel de Brancion, il faudrait revenir sur tout ce qu'a fait Lafayette après, et notamment sur son rôle dans l'opposition à la Restauration et aux ultras sous le règne de Charles X en particulier, et dans son rôle dans la Révolution de 1830, parce qu'il va continuer à accompagner l'histoire de France.
Voilà.
Bien sûr.
Dès 1820, il redevient l'éternel conspirateur, l'éternel soutien à tous les mouvements de libération. Alors, il soutient aussi bien les Espagnols, les Italiens, il va soutenir les Polonais. Et puis il va soutenir donc les mouvements en France, et il est véritablement au cœur des Trois Glorieuses. Et
Mais donc la révolution de 1830 qui va porter Louis-Philippe
d'Orléans. Sauf qu'il a 72 ans. À ce moment-là, faut quand même bien. C'est plus petit jeune.
Mais il y a quand même
États-Unis.
Une cohérence, moi, je trouve, chez ce personnage.
Parole est à la défense.
Oui, la parole est à la défense. C'est vrai qu'il traverse une période extrêmement troublée. Il risque sa tête un grand nombre de fois. Et au fond, au cœur de tout ça, outre, bon, une mégalomanie certaine, mais sommes-nous bien sûr que tous nos présidents et chefs d'État ne soient pas un peu mégalomanes? Ça, je n'en suis pas sûre. Il y a quelque chose de fond. C'est un modéré et c'est un libéral,
oui, Lafayette.
Et il a horreur de la violence de la révolution. Il veut une révolution quasiment pacifique.
Il va refaire un dernier voyage aux États-Unis en 1824 avec son fils.
Magnifique. 1824-1825, oui. Presque un an de voyage. Son fils qui s'appelle George Washington de Lafayette, ça ne s'invente pas. Et c'est véritablement une tournée triomphale, presque comme une rockstar de son temps. Il retrouve deux vieux amis 35 ans plus tard, dont Thomas Jefferson qui ne va pas vivre beaucoup plus longtemps à Monticello. C'est un héros américain. En tout cas,
voilà, ça,
mais
point,
c'est l'homme des libertés.
Aura...
Nicolas a raison. Lafayette est l'homme des libertés. C'est l'homme
c'est
de la traite des Noirs, de l'abolition de la traite des Noirs.
Oui.
L'homme de l'introduction du traité des protestants. Les protestants sont réintégrés en France par lui.
Donc oui, on peut dire qu'il a joué donc un rôle très important. Lafayette, rêver la gloire, de Laurence Châtel de Brancion et Patrick de Villiers. C'est aux éditions Monet Layo et c'est un très beau livre parce qu'il est en plus un album entièrement illustré. Et puis je signale, Nicole Bacharan, que votre ouvrage sur les Noirs américains des champs de coton à la Maison Blanche a été réédité dans la collection de poche des éditions Perrin, donc chez Tempus. On peut le trouver très facilement. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.